La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Anne-Sophie Carpentier en remplacement de Phil Séguin, en remplacement de Fred Poirier et celui qui n'est pas remplaçable. K.R. Kevin Raphaël. Nerfs,
man. Calm down, là. Celui qui n'est pas remplaçable.
C'était pas une belle introduction?
Non.
Hey, pour quelqu'un qui se dit le rock du Québec, je trouve que tu prends pas le compliment trop, là.
C'est quoi?
Tu vas être obligé de me remplacer.
Quand?
Le 4 octobre.
Où ça?
Ben ici.
Je vais pas te remplacer, je vais rester là.
Non, tu vas être obligé de me remplacer.
Pourquoi je vais te remplacer?
Mais non, tu vas être obligé de trouver quelqu'un pour me remplacer.
Ah oui. Emilio.
Emilio et Phenom.
Emilio et Phenom. On était à...
Parce que je m'en vais à Cancun encore une fois. Raymond va être là d'ailleurs pour TVA Sports. C'est déjà confirmé.
Le
4 octobre. C'est loin encore.
J'allais dire...
Qu'on était...
Ouais, quand on était à Collégien à Toronto...
Oui.
Il y a un patinet dans le line-up qui vient nous voir... Fait que là, il vient me voir, tu sais, salut, Kev, tu sais, vraiment, tu sais, j'étais content de le rencontrer.
Ouais.
Il se retourne vers Emilio, il dit, c'est toi, Emilio! Je suis comme yo! Emilio est over!
Emilio est famous!
Emilio est over à cause de nous!
I made Emilio famous!
Yo! Emilio, c'est moi, je suis Kurt Angle, pis Emilio, c'est Charlie Haas!
Tu sais-tu qui d'autre qui est famous? C'est ton invité à Sans Restriction cette semaine, Julien Gauthier.
On commence le show. Ma première question, c'est, qui est plus famous? Ton grand-père, ton père ou toi?
Wow! T'aurais pu même dire son cousin?
Oui, on en a parlé son cousin
Ethan qui a été repêché par les Lightning.
Ben, j'ai aimé le inside que allô, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai aimé le inside
on dirait vraiment que comme un feed extérieur qui est arrivé, qui a juste dit allô, on m'entend-tu bien? Parce que ça fitait aucunement avec le avant et le après de ce que tu disais.
Je m'entendais en écho dans ma tête, mais c'est dans ma tête.
Dans ta tête, il se passe bien des affaires que je voudrais pas être là.
Oui, on a parlé du draft. Et puis il a donné des insights sur Ethan,
oui,
qui est surnommé le King dans sa famille parce qu'il est zéro stressé. Puis j'ai trouvé ça vraiment bon, le fait qu'il développe là-dessus. Puis il développe, ça voulait dire quoi le draft pour lui. Puis il disait, c'est le seul moment qu'il va vivre un autre draft que son draft. Il n'y a pas de kid, il n'y a pas rien. Fait que je trouvais ça cute de sa part. Puis il a parlé de Lafrenière.
Ah oui.
On a parlé de la fille.
Oh. Puis si tu dis rien d'autre, c'est parce qu'il a parlé de la fille.
Puis il a parlé de comment il a su qu'il s'est fait échanger.
OK.
Puis il a parlé...
Laquelle des fois?
New York à Ottawa.
Oui.
Puis tu sais, tout le monde paniquait là parce qu'il dit, ah moi j'ai pas... Tu sais, il a signé, ça a été annoncé quoi, le 10 juillet?
Ouais.
Fait que là, moi j'ai dit, comment ça t'as signé trop tard? Il dit, ben yo, vous irez entendre sa réponse.
Il dit yo, vous irez entendre sa réponse.
Non, mais il dit...
Un bon contingent de Keb à Ottawa.
Il y a non, à Ottawa.
À Ottawa.
Oui.
Mais Julien.
Oui.
Matt Joe.
Non, mais Julien est à Long Island maintenant.
Ah oui. Ben oui, excuse-moi. Ben non, c'est vrai. C'est vrai. Il est rendu avec les Islanders.
Yeah.
C'est vrai, mais Boko est rendu à Ottawa, par contre.
Oui, exact.
Hey, Butch Bouchard en librairie, allez vous le procurer, le Rod de Gibraltar. Classique KR, 22 juillet. Julien va être là.
Non.
Julien va. Ben, il était pas censé être là.
Ouais, mais il y a un mariage qui pouvait pas être là.
Ah, c'est dommage.
Ça arrive.
Ben non, ben oui. Matt Joseph va être là.
Oui.
Il y a plein de monde qui vont être là. Allez checker le line-up qui est visiblement plus à jour.
Ben non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de in and out, là. Mais tu sais, je peux nommer mon équipe, là. Kevin Raphaël, Pierre-Luc Dubois, Fouki, Thomas Bordelot, Raphaël Harvey-Pinard. Je vais aller ligne par ligne. Kevin Raphaël, Pierre-Luc Dubois, surprise. Fouki, Bordelot, Raphaël Harvey-Pinard. Kim Deschênes, Max Comtois, Anne-Sophie Bété, c'est ma troisième ligne. Après ça, ma première paire de def, Nick Beaudin, avec Pierre-Olivier Joseph. Vincent Desharnais va jouer avec Simon Benoît. Puis Sam Breton va jouer avec Adib Al-Khalidi.
Dans les buts?
Dans les buts. Samuel Montembeau va commencer le match. Eve Gascon va finir le match.
C'est qui ta première ligne? C'est toi avec?
Moi, Pierre-Luc Dubois, surprise.
OK. Donc, j'en compte lui, ça va être deux millionnaires, puis toi.
Oui. Mais c'est pas la même surprise qu'on tease depuis un
c'est
mois et demi.
C'est pas le numéro 22.
Ah.
OK. C'est une autre surprise.
Oui.
Que tu vas me dire en dehors des ondes. Ou tu peux nous donner un indice.
Je peux te montrer.
Ou tu peux nous le dire là.
Non.
Non? Mais
non,
tu vas me montrer
que,
une photo.
Parce qu'il y a encore des choses à régler avant qu'on l'annonce.
Ah, OK.
Il y a une permission à demander.
Oh, une permission à qui? Il y a une permission à demander, effectivement. Je confirme la permission. Ouais. Oh
mais
boy.
Écoute.
C'est une crise de permission. Ouais.
Je te dirais que il me l'a confirmé.
Ouais.
Il est disponible.
Oui. Il n'y a pas de mariage.
Non, mais dans le sens que il vient, là.
Ouais.
Mais s'il vient pas, je vous dis, c'est parce qu'il n'a pas eu la permission, puis je vais en parler sur le podcast.
Je comprends.
Parce que c'est le truc le plus. Un des trucs les plus fous, là, depuis une semaine, là. Bon, l'affaire de hockey féminin, mais depuis lundi, là. Ça, là!
Puis en plus, la Ligue Living Sissou, c'est le mardi, fait que t'es correct. On va aller aux nouvelles.
Moi, là, je dis rien, man. C'est supposé être une affaire undercover.
J'ai rien dit, moi.
Moi, je dis rien, man.
Moi, j'ai rien dit. Le procès de Roman... Oh, attends. Je vais revenir sur deux choses avant d'aller aux nouvelles. Je vais revenir sur deux choses de la semaine dernière. Premièrement, la Place Belle... Tu sais, quand j'ai parlé des AEW... Ouais. Hey, la nouvelle sur AEW,
ça a fait le tour.
Ça a vraiment fait le tour. La Place Belle, elle est prise le mercredi 6 décembre. Les Rockets ont sorti leur calendrier. Donc, ils jouent à domicile le 6. Ouais. Ce qui explique peut-être aussi... le choix d'aller au Centre Bell. Mm-hmm. Puis rendu là, tu te dis, ben, je vais faire tout là en deux soirs, puis je vais m'en aller ailleurs.
Ils auraient pu faire Trois-Rivières, puis...
Oui, mais ça implique quand même de tout défaire le setup, de tout remonter le setup ailleurs. Donc, tu sais, le faire deux fois en deux soirs au même aréna, c'est plus simple pour tout le monde. Et puis, l'autre chose aussi que je voulais mentionner par rapport à ça, c'est que... c'est quoi l'autre chose que je voulais mentionner par rapport à ça? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont challengé suite à la nouvelle en disant, ben voyons, c'est pas bizarre que Collision... soit enregistré avant Dynamite.
Ouais.
Premièrement, il y a une chose. J'ai pas la confirmation que Collision est enregistré le mardi. Mais en même temps, c'est la seule chose qui a du sens. Qu'est-ce qu'ils vont faire le mardi? Ils font Dynamite Rampage ensemble maintenant?
Ouais.
S'ils font un taping le mardi, ça sera pas un house show, là. Donc, la logique voudrait que ce soit Collision. Maintenant, c'est-tu vraiment plus bizarre que lorsque la WWE fait... excuse-moi, lorsque la WWE fait deux SmackDown back-à-back parce qu'il s'en va en Europe où le temps des fêtes arrive. Le deuxième SmackDown, il est quand même enregistré avant le prochain Raw et puis il est diffusé une semaine après. Là, Collision serait enregistré la veille de Dynamite et puis il serait diffusé quatre jours plus tard. C'est pas, je dis pas qu'ils vont faire ça tout le temps, mais à l'occasion, c'est pas nécessairement un problème. Je vais aussi parler de Collision la semaine dernière. On a parlé des codes d'écoute. Il n'y avait pas super bien été avec 452 000 auditeurs. Ben, ce qu'on n'a pas mentionné, par contre, c'est qu'il allait face à face avec un UFC.
Oui, mais on sait ça. Ça va toujours être ça.
Il va toujours avoir
un UFC à chaque... Il y avait un UFC cette semaine à...
C'est mais en fin de semaine, c'était pas le gros. C'est... La semaine passée, c'était un Fight Night. Fait que ça, c'est toute la carte.
C'était les prelims.
Là, c'était les prelims.
Oui, mais c'était
Robbie
Lawler qui prenait sa retraite.
Oui.
Puis c'était gratuit à la télévision sur ABC.
Non, absolument.
Le
gars,
il a knock-out l'autre personne en 38 secondes. Il y a eu tout le power. Puis, tu sais, ça va toujours être ça si tu roules le samedi.
Et là, ben là, tu vois, cette semaine d'ailleurs, ils ont fait 580 000. Donc, ils ont fait plus la semaine dernière.
Mais c'est pas beaucoup, 5. Ben, après ça, c'est de voir comment tu le compares avec d'autres.
Mais tu vois, le UFC, les prélims de UFC sur ABC, ils ont fait 1,15 million.
C'est ça.
Donc, ils ont fait le double.
C'est ça.
Ils ont fait 0.33 dans le 18-49. Alors que, que Collégien, mais Collégien n'a pas fait 0.33, là. Ça, c'est sûr. Donc, il y avait aussi du baseball à Fox samedi dernier. Mais ça va être ça, comme tu dis. Si c'est pas le baseball, ça va être le UFC. Ça va être le football à un moment donné. Il y a toujours quelque chose le samedi.
Ouais.
Mais je sais pas c'est quoi les attentes du côté de TNT.
Mais ils doivent... Je peux pas croire qu'ils ont pas d'attente. Je peux pas croire qu'ils pensent pas qu'il y a quelque chose qui va se passer. Là.
Qu'est-ce que tu veux dire, ils ont pas d'attente?
Mais tu peux pas faire un aussi gros show que... Collégien, puis tu t'attends pas à recevoir plus que 300 puis 500 quand t'as fait 800. Tu sais que t'as la possibilité de faire 800. Puis on sait, ta première cote d'écoute à la télé, c'est jamais la vraie. Mais en même temps, tu sais que t'as la possibilité de faire 800.
C'est sûr.
Tu sais, Dynamite, ils visent toujours le million parce qu'ils savent qu'ils ont fait le million. Mais Collégien, on dirait qu'ils visent, voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que les cartes
au début, je veux pas, c'est un peu ça aussi.
Mais les cartes qu'ils mettent sont pas attrayantes. Pour un samedi.
Mais en même temps, c'est là qu'ils ont mis Punk contre Joe.
Zéro build.
Mais zéro build. Exactement. C'est peut-être là le problème. Pour attirer des fans, puis on va en parler tantôt, mais on va en parler dans pas long avec SmackDown, faut que t'aies une histoire.
Ben...
Et parlons-en, le procès de Roman Reigns. Avant d'aller dans...
C'était un bijou.
C'était un bijou. La seule chose... J'ai tout adoré. La seule chose qui m'a un peu déçu... C'est que je m'attendais à une longue promo de Paul Heyman.
Ouais.
On en avait parlé. Je m'attendais vraiment à ça. Je m'attendais à ce qu'il fasse un gros case pour Roman Reigns. Soit vraiment l'avocat de Roman Reigns. On a peut-être voulu faire ça différemment de ce qui s'est passé la fois avec Sami Zayn. Mais je m'attendais à ça et on l'a pas eu. Donc, c'est la seule chose. Mais sinon, de voir Roman Reigns, le exhibit A,
ouais,
et le voir tous les moments,
wow,
où ça marchait pas, où il lui reprochait des trucs, et puis ensuite de voir Roman genre être émotif, se mettre à genoux, pleurer, tout ça pour lui donner un low blow. C'était magique.
Masterpiece.
C'était magique.
J'ai adoré tout du début jusqu'à la fin.
C'était vraiment, vraiment excellent comme segment. Puis non seulement on a trouvé ça excellent,
ouais,
ben les codes d'écoute étaient au rendez-vous. Le SmackDown a fait 2,56 millions. C'était 2% de plus que la semaine dernière. Et ça a été le meilleur auditoire depuis le 7 juin dernier et le deuxième plus haut de l'année.
Ouais.
Et juste le deuxième quart d'heure. Celui avec le segment du Bloodline juste avant la pause commerciale, juste après, en fait, la pause commerciale, ça a fait 3 millions.
C'est fou. C'est
3 fou. Millions, puis 0.94 dans le 18-49. 0.94. C'est immense.
Puis faut pas oublier que, tu sais, quand il avait fait le gros chiffre, là, ben c'était après la game de la NFL. Là. Fait que ça compte pas vraiment cette game-là. Là. C'était le leading du match à Thanksgiving, le match des... Thanksgiving ou Noël, je m'en rappelle plus. Là. Le match des Lions, il a fait un gros chiffre. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? C'est sur une île, là. Tout seul.
C'est tout seul.
Avec un build-up. Wow.
Et pas juste ça. En plus, SmackDown, entre lundi et vendredi de la semaine dernière, SmackDown a été l'émission la plus regardée sur Network Television. Pas cable, pas au câble, mais Network Television, qui est Fox, NBC, ABC et CBS. C'est l'émission qui a été la plus écoutée. Ça arrive jamais que la lutte est l'émission la plus écoutée. Évidemment, on ne sait pas encore si les chiffres sont pas sortis, à tout le moins, si entre une semaine complète, du lundi au dimanche, si ça finit par être l'émission la plus écoutée.
Ouais.
Mais que ce soit du lundi au vendredi, c'est fou. Dave Meltzer, d'ailleurs, notait sur son podcast que c'est même jamais arrivé. Genre, tu te rappelles la grosse cote d'écoute que Hulk Hogan et André ont fait,
mm-hmm,
en 88, là, la fois où André bat Hogan pour le titre, qui a fait 33 millions ou 35 millions de téléspectateurs, il était même pas premier cette semaine-là. Le Gorgeous George, dans les vieilles années 40-50, il était même pas premier. La lutte était même pas première à ce moment-là.
Ça
arrive jamais que la lutte est première. Et là, ça l'a été à tout le moins du lundi au vendredi. Donc, c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils viennent de faire là. Et puis, ben, c'est en... je veux dire, en entière partie à cause du procès de Roman Reigns.
À cause d'un build.
À cause d'une histoire qui marche bien, qu'on joue bien, qu'on livre bien, puis qu'on continue depuis maintenant, quoi, un an et demi, deux ans, là.
Moi, je trouve ça vraiment, je suis vraiment content. Je suis vraiment, vraiment content parce que ça prouve que la lutte, c'est pas juste des flips et des flops, là.
Non.
Hey, c'était quoi? C'était 30 minutes, 40 minutes de télé? Hey,
ils ont eu, ils ont été là pas loin d'une heure en tout. Ce segment-là au complet.
Je pense que c'est 45.
Non, non, mais entre le début.
Non, avec le début puis la, avec le tout au complet. Là,
tout au complet, c'était pas loin d'une heure.
Non, c'était 45. Parce que quand Sheamus est rentré, c'est Sheamus qu'on.
C'est 35 minutes, juste le début. Juste le début, c'est 35 minutes.
OK, toi, tu parles du show complet.
Oui.
Ah, moi, je te parle du début du show.
Non, 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 je te parle, c'est 35 minutes au début.
Puis après ça, la fin. OK, non, non, non.
Incluant la fin, puis incluant les
ouais, ouais.
Paul Heyman qui parle à Roman, puis les recaps qu'on a vus.
Je parle du début du show.
C'est la moitié du show était concentrée sur Sting
Goldberg. Mais je parle du début du show. Le début du show, c'était 35. Plus, t'as le match de Sheamus qui a duré longtemps. Là, c'était un 20. Fait que t'avais comme deux trucs pour commencer SmackDown, puis c'était captivant les deux. Là. Le Sheamus, là.
Sheamus, il est souvent sous-estimé, je pense.
Man.
Hey, Jerry McDavid, dans une toute autre nouvelle, Jerry McDavid, l'avocat bien connu de la WWE.
My dog.
qui va être bientôt à la retraite, donc dans le fond, il a dit à son client, comme il dit, la WWE ou Vince McMahon, la fameuse poursuite avec MLW, qui voit pas comment ce dossier-là va pouvoir se régler avant 2025. Donc, il a dit à son client qu'il était mieux de se trouver un autre avocat parce que lui, à la fin de l'année, il compte se retirer. Il va avoir 74 ans en janvier, McDavid. Et donc, les personnes qui vont, ou l'avocat qui a été mandaté, du moins pour MLW, c'est la ferme d'avocats. La ferme d'avocats Paul Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison qui ont travaillé justement avec la WWE pour les conseiller dans la fusion avec Endeavor pour le UFC. Ouais. Donc, ça risque d'être les nouveaux avocats dans la plupart des dossiers de la WWE. Il a été là pendant 36 ans, Jerry McDavid.
Mais lui, il en a vu, hein?
Oh, lui, non, il en a pas juste vu. Hey, imagine ce gars-là, l'information qu'il a. Lui, là, il pourrait sortir le meilleur best-seller de tous les temps.
Mais il a pas sorti un livre?
Ben, pas un livre.
Non, pas Dirt, là, mais il me semble qu'il avait sorti un livre ou une série.
Ça me dit rien, un livre, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui, justement, je comprends qu'il peut, il peut pas le faire parce que, de toute façon, il est lié par le secret professionnel. Mais t'imagines la quand... Lui, il sait, là, ce qui est arrivé avec Snuka.
Ouais, c'est vrai.
Lui, il sait un paquet d'affaires qui sont arrivées ou il sait ce qui est arrivé à Vince récemment, là.
Ouais.
Il sait les vraies affaires, là. Lui, il doit... Oh, man... Oh.
Pat, il est comme, j'aimerais ça aller prendre un verre
oh,
avec.
Oh, j'aimerais ça aller prendre un verre. T'as pas idée. Baron Corbin, tantôt à l'émission de lutte à TVA Sport,
je t'ai fait une petite
blague là-dessus parce que je te disais que j'étais pas à la veille d'avoir mes coronas parce que Baron Corbin, on sait, quand on a commencé à faire la lutte, on disait qu'il ressemblait à un barman avec sa petite veste pas de manche. Puis je disais que je voulais qu'il m'amène deux coronas qu'il m'a jamais amené. Mais je les aurai vraiment pas bientôt parce que là, Baron Corbin s'en va à NXT à temps plein.
Ah ouais?
Ouais. Donc, il s'en va à NXT à temps plein. Et puis, c'est ce qui est, selon ce que je lis, là, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Donc, des lutteurs du main roster s'en allaient à NXT, mais à temps plein.
Ben, écoute.
Donc, je pense qu'on, tu sais, on lui donnait quoi à Raw ou à SmackDown dans Baron Corbin?
C'est ça.
Donc, NXT, il va pouvoir, lui permettre de se revamper peut-être de travailler avec des plus jeunes qui ont besoin d'expérience. Il y a quand même peut-être pas le meilleur des lutteurs, mais quand même une certaine expérience, Baron Corbin. Donc voilà, il s'en va à NXT à temps plein. Ben écoute, encore là, c'est maintenant, mais tu sais comment les choses peuvent changer vite.
Exactement.
Mais
c'est vrai qu'il n'y avait pas d'histoire pour lui.
Pour l'instant, il s'en va à NXT à temps plein et c'est quelque chose de récurrent qu'on va voir avec d'autres lutteurs également. La finale de Raw cette semaine.
C'est un shit show, hein?
Ça n'a pas été facile.
C'est un shit show.
Sans rentrer dans les détails, ce que vous avez lu en ligne à propos qu'il y a eu un. quelques arguments après le show, après le match, entre les six lutteurs. Là, on parle évidemment de Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins, Finn Balor, Damien Priest et Dom Mysterio. Ce qui est sorti, c'est qu'il y a eu un certain argument entre les six parce que durant le match, ça a pas bien été. Il y a eu plusieurs manques de timing, plusieurs manques de communication. Ben, ce que vous avez lu, je peux vous confirmer que c'est vrai. Donc, cette chose-là est arrivée. Ça arrive. Ils ont pas réussi à bien se timer, des petites choses qui ont été changées, peut-être à la dernière minute, et ça a créé un manque de communication rendu dans le ring, on savait plus trop où on était. C'est très rare que ça arrive à des lutteurs, tu sais, de ce niveau-là, mais c'est quand même pas impossible. Puis ben c'est ça, tu sais, il y a personne qui va être suspendu, c'est pas ça là, l'affaire là. C'est six gars qui étaient pas contents de leur match puis qui sont retournés en arrière puis qui étaient tout frustrés de la situation puis ils sont parlé, tu sais, je veux dire, c'est tout là.
Puis c'est correct, là.
C'est correct. Oh oui, exactement. Mais c'est vrai, l'histoire est vraie par contre, c'est juste ça que je veux dire. C'est que l'histoire est vraie, mais en même temps ça arrive là.
Faut juste pas que ça arrive trop souvent.
Je comprends, mais penses-tu qu'au hockey, ça arrive pas?
Tu sais, que
deux coéquipiers arrivent dans la chambre puis sont pas contents parce qu'il y en a un qui fait une passe d'un patin à l'autre à un moment où il aurait pas dû, où il a été offside au moment où il a. Tu sais, bon, ça arrive. C'est juste que. Puis bon, combien de matchs on a vu de ces gars-là? C'est pas, tu sais, on les a vus, les membres de notre communication là. Finn Balor à un moment donné avec Seth Rollins, ça a été compliqué. Ça a été compliqué à un moment donné aussi. Mais avec Sami puis Finn.
Au bout de la ligne, ça rend juste, ça fait juste nous rappeler que c'est pas un sport facile, que c'est compliqué faire des matchs, puis c'est compliqué. Si ces six là ils réussissent à se tromper, ben c'est normal qu'on respecte quand ils se trompent pas les gens. C'est juste un petit rappel.
C'est un rappel que c'est pas évident ce qu'ils font.
Exact.
Exactement. Ça, je suis pleinement d'accord là-dessus. Brian Pillman Jr. est maintenant agent libre, donc son contrat. T'sais,
j'étais comme, est-ce que WWE irait le chercher?
Ben, moi aussi, je me suis posé la question.
Pour faire quoi? Pour avoir le fils de Brian Pillman?
Ben, il aime ce lutteur de deuxième génération. Il pourrait s'en aller à NXT. C'est pas, il est pas vilain lutteur, il a un charisme certain,
Tout est certain. Dans le sens que, il y a rien que t'es comme.
Il y a rien d'extraordinaire.
Exact.
Mais est-ce qu'un changement d'environnement,
peut-être.
Un changement de gimmick ou une équipe, on pourrait-tu le mettre avec quelqu'un avec qui ça pourrait débloquer davantage?
Est-ce que
Griff Garrison était vraiment le bon partenaire pour lui? Tu sais, à un moment donné, c'était pas si pire, la gimmick des Varsity Blondes.
Est-ce que WWE veut que ça soit que leur deuxième AEW guy après Cody soit le partner Pillman?
Ben, en attendant, vu que c'est le fils de quelqu'un qui est décédé on the job chez eux, est-ce que ça peut venir? Puis, en fait, maintenant que j'y pense, ça pourrait aussi jouer contre lui. Parce que ramener Brian Pillman Jr., ça veut dire ramener l'histoire de Brian Pillman. Et ça, je suis pas sûr que la WWE veut remettre des lumières là-dessus.
En même temps, est-ce que...
Parce qu'il est pas mort
on the job, là. Il est pas mort comme Owen.
Ben non, mais il est mort. Non, mais il est mort, je veux dire, sur la route, alors qu'il aurait dû être à l'aréna, là.
Oui, non, je sais, mais dans le sens qu'il est pas mort dans le ring.
Non, mais il est mort comme Eddie Guerrero est mort.
Exact, mais quand, dans le sens que... Et puis là, je compare pas des morts, là. C'est pas ça que je fais, là. Je veux juste être sûr que les gens comprennent bien.
Il est pas décédé dans un match de lutte. Ça, je comprends, mais il est quand même décédé quand il était sur la route pour la WWE.
Eddie, on parle d'Eddie tout le temps, là. Tu sais, dans le sens que c'est Brian Pillman, c'est juste qu'il avait des problèmes de drogue reliés à tout ça, puis il a fait un Dark Side of the Ring sur lui.
Je comprends.
Mais moi, je vois pas quelque chose de négatif. Je pense que c'est plus une rédemption.
Peut-être. Il y a peut-être moyen de le spinner différemment, effectivement. Et puis, on l'avait pas vu. Écoute, Brian Pillman Jr., là, depuis, il y a eu 9 matchs télévisés depuis la dernière année. Depuis janvier, en fait.
9 matchs télévisés depuis janvier.
Excuse-moi, 9 matchs, un seul a été télévisé. Imagine, il y a eu 9 matchs depuis janvier. C'est à peine un par mois.
C'est fou.
Puis il y en a juste un qui a été télévisé. il était temps, tu sais, clairement.
C'est juste qu'il faut y acheter du millage.
Clairement, on voulait plus l'avoir. On l'a fait, il a lutté avec Brock Anderson à un moment donné.
Ouais.
Tu sais, c'était deux lutteurs de deuxième génération. Mais bon, Brian Pillman Jr., je suis pas mal sûr, il était à MLW avant. Il pourrait retourner à MLW. Je suis pas sûr qu'une compagnie comme Impact voudra pas essayer de voir ce qu'il peut faire avec. Il va avoir, son téléphone va sonner. Ça, je suis convaincu de ça. On a parlé de Dark Side of the Ring. Juste vous mentionner, parce qu'on n'a pas parlé la semaine passée. C'était congé la semaine passée. C'était le 4 juillet. Donc, il n'y en avait pas.
Ouais.
Cette semaine, l'as-tu écouté?
Ah, c'est Adonis. J'ai pas écouté.
Moi non plus.
Okay.
Donc, parlons-en la semaine prochaine.
Parce que c'est Hawk qui faisait un des personnages, me semble. Le
qui?
Lutteur.
Ah, Shane Hawk?
Ouais.
Shane Hawk, faisais-tu un personnage dans celui-là aussi?
Oui, faites un post.
Ah, OK.
Il a aussi posté qu'il était blessé au cou.
Oui. Shane Hawk, un lutteur québécois.
C'est triste.
Sa carrière de lutte est pas mal terminée, là. Pas mal terminé avec, avec ce qui.
On lui souhaite un prompt rétablissement.
Exact. Puis... Il continue à être le scripteur en chef de la IWS, puis il continue l'école de lutte du IWS Dojo, même si lui pourra plus prendre de bump. Mais il continue son implication, puis à gérer l'école de lutte. Mais c'est sûr que ça joue sur le moral, là. Ça c'est très très naturel. Et puis on en parlera des deux. On écoutera les deux pour la semaine prochaine.
Ouais.
Excellent.
C'est lequel, celui de la semaine prochaine, tu sais pas?
Je sais pas. Okay. J'ai pas l'horaire près de moi, mais Adrien Adonis, qu'on a connu, tu te rappelles d'Adrien Adonis?
J'ai vu son documentaire, là, WWE avait fait un.
Ah, il en avait fait un?
Ouais.
J'ai jamais vu celui-là.
Il était vraiment bon. Juste être sûr que j'ai la bonne personne. Là.
Adrien Adonis, c'est lui qui luttait en équipe, entre autres, à un moment donné, dans les années 80, avec Brutus Beefcake. Ou c'était pas en équipe avec Beefcake, mais il y avait une rivalité avec Beefcake.
Ouais, c'est ça, oui.
Ou Beefcake, il lui avait coupé les cheveux.
Oui, on en avait parlé.
Les cheveux.
Du documentaire d'Adrien.
Ah, je suis sûr que non. Moi, je l'ai pas vu.
Ben, peut-être c'est moi qui t'en ai parlé.
Ça,
j'ai dit que
c'était
un excellent documentaire que WWE avait fait sur lui.
Il est décédé dans des circonstances tragiques.
Lui,
il est décédé d'un accident d'automobile au Canada, d'ailleurs, Adrien.
Mais si t'es capable de trouver WWE, écoute-la avant.
OK.
Comparer les deux.
OK.
Parce que moi, j'avais trouvé vraiment... je pense qu'il avait sorti dans
c'était
le Pride Month.
C'était sur A&E ou c'était direct sur le network?
C'était sur le network. C'était avant que le deal de A&E.
OK. J'ai essayé de chercher ça. Hey, on va aller maintenant parler, parce que c'est une fin de semaine d'Impact. C'est Slammiversary samedi le 15 juillet du côté de Windsor en Ontario. Et puis, j'ai failli y aller, mais j'ai tellement un samedi occupé. Ça n'a aucun sens tout ce qui se passe dans ma vie samedi, dont un événement de la IWS que je vais vous parler dans la section de la Québécoise. Mais on va aller parler à Handsome JF, notre ami qui est commentateur du côté d'Impact avec Marc Blondin. Ils seront à bord du ring samedi prochain, le 15 juillet, pour Slammiversary. Alors, on va aller lui parler de ce qui va se passer avec Slammiversary. Allons voir, allons parler à Handsome JF. Alors, on est avec Handsome GF. GF, comment vas-tu?
Ça va bien, merci, vous autres, les boys.
Ben, ça va toujours. Gros Slammiversary ce samedi du côté de Windsor. Toi et Marc Blondin allez être encore une fois aux abords de l'arène. Première question très, très générale. Ah non, tu sais, on va rentrer dans une question précise. Bully Ray et Deaner. Deaner qui remplace Steve Maclin contre Scott D'Amore et potentiellement PCO avec comme Special Enforcer l'ancien joueur des Red Wings, Darren McCarthy. OK. Parle-nous de ça et explique-nous pourquoi, GF, PCO, on sait pas vraiment si c'est lui qui va être là ou pas. Puis t'as-tu des options si c'est pas PCO?
Écoute, pour mettre les gens en contexte qui n'ont pas vu Impact jeudi dernier, PCO a été littéralement mis en feu.
Et là, on a brûlé Carl.
On a brûlé PCO, mais là, c'est un scénario, là, partez pas en peur, là, mais Carl a été brûlé, PCO a été brûlé. Donc, est-ce que PCO va être là? Mais moi, l'option que j'ai peut-être en tête, ce serait peut-être le retour triomphal du Canadien, ancien champion du monde, Josh Alexander.
Ah, mais je trouve qu'il ne fit pas dans l'histoire, par exemple.
Il fit avec Scott D'Amore,
exactement.
Non, mais dans le sens que moi, si je suis Impact, je le ramènerais dans le giron du titre. Parce que dans le fond, il a pas perdu le titre, il s'est blessé, non?
Oui, exactement. Il a perdu le titre, puis non, il s'est blessé, il a dû faire forfait du titre, puis il y a eu le match entre Kushida et Macklin. C'est là que Macklin est devenu champion du monde. Mais c'est à Windsor, en Ontario, au Collège Saint-Clair, un bastion très fort de Scott D'Amour.
Non, c'est sûr.
Au Canada, Josh Alexander, un Canadien, comme tu dis, ancien champion du monde, qui l'a pas perdu. J'espère que PCO va être là parce que on l'apprécie, puis c'est un chum. Mais je sais pas, à part, il s'est fait mettre en feu jeudi dernier. Est-ce que c'est logique de le ramener là? Il va s'arriver comme une momie.
Ouais, c'est un mort vivant, fait que peut-être que le feu l'atteint pas. Fait que tu sais. Quand ils l'ont mis en feu, là, j'ai dit. Ils l'ont mis en feu, pas sur pay-per-view. Tu sais, ils travaillent vraiment fort, PCO, là, puis je respecte ça beaucoup.
Ben, en tout cas, ma prédiction serait Josh Alexander et PCO vont intervenir dans le match à quelque part.
Ah, OK.
Ou ça va être tout simplement PCO, mais c'est sûr qu'ils vont être impliqués dans le match PCO, mais peut-être pas au départ. Ils vont peut-être nous garder un special guest à la Josh Alexander ou peut-être un autre Canadien. Tu sais, Eric Young qui était là, il a sursigné avec WWE, on n'a jamais revu arriver là-bas, Bobby Roode, tu sais, c'est... Les anciens Team Canada, peut-être, qui pourraient venir aider Scott D'Amour, mais tout est en l'air encore, là, on ne sait pas.
Dans les autres combats, Jeff, bon, évidemment, on a Alex Shelley qui va défendre son titre contre Nick Aldis. On a déjà parlé de Nick Aldis. Alex Shelley, je le voyais comme un champion de transition. On s'entend-tu pour dire que c'est Nick Aldis le prochain champion d'Impact?
Écoute, ça serait ma prédiction, moi aussi. Je suis pas un grand fan d'Alex Shelley, ni dans le ring, ni à l'extérieur du ring, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est pas un gars super sympathique. Tu sais, dans les Motor City Machine Guns, Chris Sabin, extraordinaire, sympathique, gentil. Shelley, un peu plus snob. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, allons pas dans le gossip. Faites-moi pas faire ma langue sale à soir, les gars.
Mais le pire, c'est que j'ai déjà entendu des histoires qui ressemblent à ça, donc... T'as peut-être pas tout à fait tort là-dedans.
Nick Aldis, ancien champion, qui est né à l'époque, gros bonhomme, en forme, il était champion NWA, amène du prestige au titre. Moi, je le vois comme le nouveau champion, c'est sûr et certain, comme toi.
Kev, toi qui suis un peu plus Impact,
ben
que moi?
Je suis au même niveau que toi. Je trouve juste ça plate que Aldis remporte le titre contre Shelley. Je trouve que c'est pas une vraie victoire. Parce que Shelley, c'est pas un vrai champion.
Mais je pense comme toi, tu sais, j'étais déçu. Macklin, que j'aime énormément comme lutteur et comme personne, tu sais, on va dans le gossip, là, backstage, c'est un homme extraordinaire, gentil comme ça se peut pas. J'étais content qu'il remporte le titre, puis j'aurais espéré qu'il donne une plus longue run, parce que il a travaillé fort, il a bien travaillé sa gimmick, mais comme tu dis, ça manque de lustre un peu si Aldis bat Shelley, parce que on va se dire, ben, c'est normal qu'il batte, c'est un gros bonhomme de même contre un plus un mid-card ou un gars de match par équipe.
Fait que, tu sais, moi, mettons, la seule façon que je vois rattrapable tout ça, c'est que Shelley soit heel, qui gagne grâce à un clan qu'il a créé de gens random, là, puis qu'il soit le maître du clan, puis que le clan le protège dans son règne de heel. C'est la seule façon que je vois logique que Shelley batte Aldis. Puis c'est la seule façon que je vois un intérêt dans ce match-là. T'sais, j'ai plus d'intérêt pour le match. C'est Peraza contre Trinity Fatu. J'ai plus d'intérêt pour ça, puis je suis pas un grand fan de Peraza, vous savez. Là. Mais je suis comme, ah oh ouais? Et Aldis contre Shelley?
Ben, vas-y, Jeff.
Ils ont annoncé que ça allait être la grande finale. Là. J'ai vu ça passer. Je sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, mais la finale de Slammiversary, ça va être Union Peraza contre Trinity.
Ah, nice!
Ah, ben ça veut dire, ben tu vois, je m'en allais là, ça veut dire que Trinity remporte le titre.
Ben 100%.
Ça peut pas être autre chose.
Écoute, je sais pas, à Hard to Kill, on était présent à Atlanta, puis il avait annoncé le match en finale, c'est Mickey James contre, parce que ma mémoire m'a fait défaut, c'est Jordan Grace.
Mais elle était blessée, Mickey, Peraza. Non?
Mais Mickey, on disait que c'était son last rodeo, donc c'était contre Jordan Grace. C'était en finale à Hard to Kill, tout le monde se disait, c'était la finale. Mickey James va perdre, va prendre sa retraite. Et non, Mickey James avait gagné le match. Ouais. Donc, ça, avec l'Impact, des fois, je peux plus me fier à y mettre en finale. Puis,
oublions la finale. La logique voudrait que Trinity, à son premier match de championnat sur un gros pay-per-view d'Impact, remporte le titre, indépendamment de où le match est placé sur la carte.
C'est sûr que ça ferait un buzz. Premier match de championnat pour elle à Impact. Premier match entre les deux femmes.
Puis surtout que... Peraza, GF, je veux dire, elle l'a déjà eu à quelques reprises, le titre. Puis elle peut perdre et quand même rester forte dans la compagnie. Là.
Ah, c'est sûr. Puis est-ce que tu veux une. Et est-ce que Pure Radio est heel en ce moment ou est face? Tu sais, des fois, être un peu tweener en ce moment, on sait pas de quel côté était. Trinity, top babyface. Oui, ça serait une bonne décision de peut-être le mettre sur Trinity. Puis ça ferait parler, ça, c'est sûr.
Sinon, dans les autres matchs, lequel qui capte le plus ton attention?
T'sais, t'as le match X-Division avec ouais. Ultimate X avec notre Québécois Mike Bailey qui est dedans. T'as le Final Four Way par équipe. Moi, je suis un gros fan de Brian Myers et Moose qui vont être en équipe. J'aimerais ça qu'ils remportent les titres. Moi, dans ces gars-là, je les vois comme main eventer. Donc, je trouve ça plate qu'ils sont un peu dans le mid-card, dans des histoires pas intéressantes. Il y a bien des bons matchs, cette carte-là.
Ça va être un très bon pay-per-view. Moi, Impact, là, je le dis tout le temps, sont tout le temps en dessous du radar, ils font tout le temps des beaux vidéos, des bonnes promos. Je trouve qu'Impact, ils seront pas MVP, là, parce que WWE viennent de faire un chiffre de fou avec une histoire là, à SmackDown, mais dans mes surprises de l'année, je pense que Impact est dans mon top 3. Parce que c'est intéressant, tout ce qu'ils font, c'est intéressant. Je te dis pas que c'est tout bon. Mais c'est tout intéressant, puis tu fais comme, je vais aller regarder le pay-per-view, je vais aller regarder les clips sur Instagram, je vais aller, aller acheter le pay-per-view.
Mais Impact, là, des fois, je me dis, rajoute 10 000 personnes dans l'assistance quand tu écoutes les épisodes par semaine, ça changerait complètement la dynamique, parce que comme tu dis, les vidéos package sont bons, les histoires sont souvent très bonnes, il y a des bons matchs, mais des fois, c'est ce qui manque, c'est l'interaction, comment les gens peuvent embarquer dans l'histoire, se sentir investis. C'est sûr, quand t'as pas beaucoup de monde, des fois, c'est ça qui fait mal à tes matchs. Des matchs extraordinaires, mais si t'as pas la part de la foule, souvent, qui fait une grosse, grosse différence. C'est ça, des fois, qui manque à Impact Wrestling. Mais au Collège Saint-Clair, la dernière fois qu'ils ont fait des tapings, là, il y a quelques mois, c'était plein, c'était fou. Donc, je m'attends, samedi soir, que ça soit complètement fou comme soirée. Une soirée incroyable comme soirée.
Let's go. Ben, Jeff, on va vous écouter du côté de Fight.tv. Gros samedi soir pour le Québec sur Fight.tv parce que non seulement vous allez être là avec la diffusion d'Impact en français, mais également la IWS, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais la IWS fait également ses débuts sur Fight.tv nice. Samedi soir. J'ai complètement oublié de le mentionner tantôt, mais on en a pour tous les goûts. Et puis, l'avantage, c'est que vous faites compétition, mais oui et non, si on veut l'écouter live, mais l'avantage de Fight TV, c'est que tu peux l'écouter quand tu veux, tu peux l'acheter le dimanche, tu peux l'acheter le samedi soir, un après l'autre. Tant que tu l'achètes, ben l'IWS est en anglais, l'IWS, tu l'achètes? Non, Kev, tu l'achètes, tu changes juste la langue.
Mais moi, je suis pas capable de changer la langue.
Hey, G, il va falloir que tu lui expliques ça, là.
Hey, je pensais que c'était la gimmick à moi puis Blondel, ce petit nanon. Vous êtes pas vous autres aussi, j'ai
fait ça. C'est pour ça qu'on s'appelle les antipodes de la lutte.
Nous qui inventons la gimmick.
Hey Jeff, on t'écoute, toi et Marc, du côté de Fight.tv ce samedi pour Impact. Bon show, bonne route vers Windsor.
Soyez prudent, man.
Vous y allez en auto ou en avion?
En auto, 8 heures de temps avec Blondel à mes côtés. On va se lucer. On est toujours en personnage, donc on a 8 heures de pratique avant le gros pay-per-view de 4 heures.
C'est correct, vous allez redéfinir la gimmick de Pat puis moi.
Oh, écoute.
Hey GF, on se reparle au prochain pay-per-view d'Impact. On vous écoute samedi, merci d'avoir été là.
Hey, merci de m'avoir reçu les boys. Tout toujours temps. Un plaisir.
La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos cents dans la petite enveloppe. Là. C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une cent d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de cents dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Toujours une aussi bonne entrevue. Toujours le fun de
nous. On sait pas, on l'a pas fait.
Ah, tu gosses. Ah, oh, tu gosses. M'a pitché mon Gatorade.
Peut-être
dans
que l'entrevue est shit.
M'a pitché. Ben, non. Ben, oui, l'entrevue est toujours bonne.
Ouais, mais peut-être que l'entrevue est shit cette fois-ci. On le sait pas, on l'a pas fait.
Oui, on l'a fait. Non, on vient de dire aux gens qu'on l'a fait.
Non, on l'a pas fait, l'entrevue.
Toi, là, t'as pas idée comment je vais aller cogner chez vous. Puis je vais la dire à tes. Oh, j'allais dire que je. Oh, je le dis.
Dis-le, dis-le.
Je vais dire à tes kids que le Père Noël existe pas.
Ah, oh, t'as pas dit ça à la télé? À la radio?
Non, je l'ai pas dit à la télé, je l'ai dit à la radio.
Oh, mec, faut l'enlever du podcast.
Non, tu l'enlèves pas.
Faut l'enlever du podcast.
Non, c'est exactement ce que tu fais à chaque fois que tu fais ça.
Tu parles du Père Noël. Ben,
fais plus ça.
Il y a des enfants dans les autos avec les parents.
Fais plus ça, puis je vais me rétracter.
Rétracter de quoi?
Ben, fais plus ça, ce que tu fais.
Fuck.
Hey.
Tu trouves ça normal?
Oui.
Anne-Sophie, tu trouves ça normal?
Oui.
Comment
tu
oui?
Vois, oui?
Comment oui?
J'ai écrit un livre au complet avec Bertrand Hébert sur les mythes et les légendes du géant Ferry. On les a toutes cassées. M'a cassé ce mythe-là aussi.
Toi, t'es un mythe. T'es un ermite.
Hey.
T'es une mimite.
Lutte québécoise. Anne-Sophie, lutte québécoise.
Yo, arrête d'écrire après Anne-Sophie.
On recommence.
Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Tu peux mettre les thèmes un peu plus fort, Anne-Sophie. Tu sais, c'est des thèmes que Fred a travaillé fort.
Tu laisses Anne-Sophie tranquille, man?
Je la laisse très tranquille.
Anso, si tu veux, là, tu peux y cracher dans la face.
Hey, non, tu peux pas.
Ben oui, tu peux.
Non,
comme il est fini.
C'est un assaut. C'est considéré comme un assaut.
Pour vrai?
Je connais quelqu'un qui... OK, parenthèse, là. Mais je connais quelqu'un qui, à un moment donné, s'obstinait avec son ex. Puis son ex, à un moment donné, elle l'a si je me trompe pas, là, elle l'a frappé.
Okay.
Et lui, il voulait pas la frapper parce qu'un homme frappe pas une femme, right? Mais il a craché au visage. Elle avait fait une plainte contre lui.
Puis elle a gagné?
Puis elle, ben oui.
Ben non.
Parce que c'est considéré comme un assaut.
En même temps, tu craches pas dans la face des gens.
Mais tu viens de dire ça! Tu viens de dire à Anne-Sophie de me cracher dans la face.
Parce que tu le méritais.
Ben oh, non, ben oui. Puis je te donne un coup de poing sur la gueule, c'est parce que tu vas l'avoir mérité aussi. Hein? Hein, Kevin? Kevin, il n'y a plus de mots. C'est très rare que Kevin est bouche bée comme ça. Puis tu peux décoller ton laptop de la barre du micro parce qu'à chaque fois que tu tapes dessus, ça fait du bruit. Tu vois, quand Fred n'est pas là, Anne-Sophie, là, c'est... OK. OK, hey, il est aussi désagréable qu'un enfant qui croit au Père Noël.
Oh, my God, Pat, arrête,
IWS. IWS, gros show d'été pour la IWS ce samedi le 15 juillet du côté de l'Olympia à Montréal. Gros choix à l'Olympia. Écoute bien la carte, OK?
Toi, écoute la carte.
Je te parle à toi! Hey, man, m'a vraiment pitché quelque chose. Pour vrai, grosse carte. Combat féminin, Sam Kelly contre Katrina Creed. Sam Kelly, une des recrues que vous voulez voir à l'œuvre cette année sur la scène locale. Match d'échelle, Ladder War par équipe TDT contre Wasted Youth, contre Fresh Air, contre les Enfants de cœur. Jordan Oliver de la GCW qui va affronter Carl Jepson. Mélanie Ava qui va défendre son titre féminin contre Danny Leo. Vanessa Craven contre Maki Ito. Ça va être tout un match. Casanova Production contre Alex Mays, Chris Tara et le Green Phantom. Benjamin Tull défend son titre de la AWS contre Dark Sheik. Et Lufisto et Manny en équipe contre Boussy, Ali Catch et Effie de GCW. Ali Catch, que vous avez peut-être vu également sur notre événement Femme Fatale Smash Wrestling du côté de Toronto. Alors, ça va être un match violent. Lufisto et Manny en équipe, ma tête comprend pas ce qui se passe. Manny qui a lutté contre Nick Gage,
il est tombé du balcon.
Ben, il est tombé du balcon. Et Lufisto, bon, on la connaît quand même pour son côté hardcore. Contre Boussy, qui sont capables de jouer à GCW, faut que tu sois capable de manœuvrer dans ce genre de match-là. Donc, ça va être tout un match mix. Aussi en action, Leon Saver, Matt Falco et Steven Mains. Donc, c'est samedi du côté de l'Olympia, 15 juillet. Consultez les réseaux sociaux de la AWS pour plus d'informations. Dimanche, c'est le séminaire de Gabe Sapolsky à Montréal, au IWS Dojo. Gabe Sapolsky, c'est l'ancien booker de Ring of Honor qui a parti Evolve également, le Evolve Wrestling, et qui a longtemps été consultant à NXT, avait quitté, et là, on l'a ramené, Gabe, et c'est lui qui s'occupe, entre autres, des extras à la WWE. Mm-hmm. Et c'est lui également qui est recruteur pour la WWE, donc se promène un petit peu sur le circuit indépendant et puis recrute pour la compagnie. Et là, il va faire un séminaire. C'est ouvert aux lutteurs, aux gérants, c'est ouvert à tout le monde, lutteuses aussi, évidemment. C'est ouvert à arbitres également. Ça coûte 120 $, mais c'est quelqu'un qui travaille directement pour la WWE. Là. Ouais. C'est pas quelqu'un qui connaît quelqu'un à la WWE. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, évidemment, je suggère à tous les lutteurs, lutteuses qui veulent peut-être en faire un métier de la lutte professionnelle ou qui veulent vraiment largement s'améliorer et faire leur bout de chemin là-dedans, ben c'est un 120 $ bien investi. Puis, c'est dans votre cours. Tu sais, vous avez pas à apprendre parce qu'il en fait partout des séminaires, Gabe, là, ou des try-outs. Vous avez pas besoin de prendre l'avion, d'aller en Floride, d'aller en Caroline du Nord, d'aller au Texas. C'est dans votre cours IWS Dojo. Donc, ça vaut le prix.
Francis Ngannou contre Tyson Fury.
Oui, j'ai aucune idée pourquoi tu me parles de ça maintenant.
C'est plus gros que n'importe quoi de SummerSlam.
Bah non.
Mais je pense que oui.
Francis Ngannou a jamais été le gars qui a vraiment cassé tous les records de cote d'écoute ou de
pay-per-view. Non, mais c'est quand même le
C'est un ancien champion poids lourd du UFC.
Il a jamais perdu son titre, là.
Mais je comprends, mais il est plus au UFC.
Non, non, je sais, mais c'est quand même le meilleur poids lourd.
C'est John Jones, le champion, en ce moment.
Ouais, mais c'est, ben oui, il fallait qu'il mette le ceinture sur quelqu'un, mais c'est...
Je comprends, mais John Jones est plus gros qu'Ngannou, là. Il y a beaucoup de champions poids lourds qui sont en avant d'Ngannou.
Mais non, pas beaucoup. Mais non.
Mais ça n'est pas toujours ta division de beaucoup.
Ben non.
John Jones,
oui, parce qu'il a été champion dans plusieurs catégories. Pis c'est un des meilleurs au monde.
Brock Lesnar.
Non. Ben non. En ce moment, là, demain matin, Brock Lesnar contre Tyson Fury ou
Brock Lesnar
Ngannou
est plus connu que Francis Ngannou.
Demain matin, tu mets Brock Lesnar contre Tyson Fury. Moi, c'est ma question.
C'est pas ça ma question.
Mais moi, ma question, c'est ça.
Quoi?
Tu mets Brock Lesnar contre Francis Ngannou ou contre Tyson Fury ou Ngannou contre Brock tabarnak. Tu mets Brock Lesnar contre Brock Lesnar contre Tyson Fury ou Ngannou contre Fury. Ngannou Fury, c'est 100%
Ah non, Brock attire plus que Ngannou.
100% avant.
Ah ben non, jamais. 100% avant. Jamais. Brock Lesnar attire plus que Francis Ngannou.
Plus maintenant.
Ben voyons, plus maintenant.
Plus maintenant.
Ben de quoi tu jases?
Dans le monde du fighting world, peut-être dans le monde de la lutte.
Non, mais...
Mais dans le fighting world, là.
Ben oui, mais Kev, tu veux pas attirer du monde du fighting world.
Ben non,
Tu veux attirer monsieur, madame, tout le monde. C'est là la clé du succès.
Ouais, mais monsieur, madame, tout le monde vont pas faire comme « Oh, Brock Lesnar va se battre, je vais aller acheter le pay-per-view, là. »
Ils vont savoir c'est qui.
Ils vont pas acheter le pay-per-view.
Ben peut-être.
Mais non. Si Ngannou se bat contre Tyson Fury, gens vont acheter le pay-per-view.
Ben non. Ben oui, non. Le monde n'achetait pas les pay-per-view quand Ngannou était au UFC.
Mais de quoi tu parles quand j'étais pas un pay-per-view?
Hey, je vais te sortir des stats.
Sors-moi des stats, man.
Je vais te sortir. Tu sais, la dernière fois que tu t'es obstiné là, avec moi sur du UFC, t'as vraiment, là, mais vraiment pas eu raison. Là.
Ben là, j'ai pas vraiment, vraiment pas eu raison.
Ben, OK. Je t'ai même excusé en nombre.
J'ai juste pas eu raison. Je me suis excusé, ça arrive.
OK. Mais là, tu vas encore pas avoir raison.
Ngannou, pay-per-view buys.
Ben oui.
OK.
Cherche ça pour le fun.
Parfait.
Cherche ça pour le fun. Pendant ce temps-là, je vais continuer. Ce week-end, à Montréal, en plus de ce que je vous ai dit avec la AWS puis Gabe Sapolsky, c'est le Comic Con à Montréal, vendredi, samedi et dimanche. Et il y a 3 lutteurs, lutteuses qui vont y être. Donc, il va y avoir Kurt Angle qui va être le samedi. Kurt Angle, ancien champion de la WWE à Impact et tout ça. Bon, lutteur que vous connaissez tous et toutes. Il va y avoir Rhino de la ECW et évidemment de la WWE. Et Trish Stratus, qui fait un retour au Comic-Con et qui va être là également. Je crois qu'elle va être là vendredi, samedi et dimanche. Mais samedi et dimanche, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, au moment où vous allez écouter ça, ou en tout cas pas longtemps après, dans la journée de jeudi, je vais avoir, j'ai interviewé Trish, j'ai interviewé Kurt Angle. Également, je vais avoir un article sur le tvasport.ca résumant ces deux entrevues. Donc, gros week-end à Montréal pour la lutte entre la AWS, le séminaire de Gabe Sapolsky et les lutteurs, lutteuses que je vous ai mentionnés au Comic-Con. On va aller où? Coup de cœur. Coup de cœur. Elle a pensé avoir pesé sur le bouton finalement, c'était Kev qui chantait. Puis, ta recherche...
Non, c'est tough à trouver.
Mais c'est pas tough à trouver. Je fais les stats pour le Wrestling Observer à chaque année là-dessus. Fait que je vais être capable de te sortir quelque chose là-dessus.
J'essaie de comparer les pay-per-view buy des heavyweights.
Oui, non, mais je sais. C'est parce que ESPN, depuis que c'est ESPN sur ESPN+, Plus, ils dévoilent pas tous les chiffres de pay-per-views. Fait que c'est pas nécessairement tous les pay-per-views qui sont listés à ce niveau-là.
Il est pas dans les pires, il est pas dans les top 10 des pires.
Ben non, mais c'est sûr qu'il est pas dans le top 10 des pires.
Ben, c'est ça, mais...
Mais il sera pas dans le top 10 des meilleurs. Hey, regarde, on va continuer à parler de lutte, si ça te dérange pas.
Mais non, mais les gens, ils se posent souvent la question.
Les gens, ils doivent se dire, hey, voulez-vous parler de lutte?
Mais non, mais ça se peut que les gens se posent la question. On peut continuer à parler de lutte, mais ça se peut que les gens se posent la question.
Mais déjà, t'as de la misère à faire trois choses en même temps. Je t'en demanderais pas une quatrième.
J'en fais huit en même temps d'habitude.
Hey, MJF et Adam Cole.
Oui.
J'adore l'histoire.
Yo, c'est tellement bon.
Mais j'adore vraiment.
Quand les deux ont dit Tony Schiavone,
oui.
J'ai ri à voix haute, là.
Le lutteur en background là de qui il riait, ouais. C'est Puffy,
ouais,
qui lutte. Il y a un gars de Buffalo qu'on a vu ici à Montréal dans quelques shows, à Ottawa également, puis qu'on a déjà vu à AEW. Pour vrai là, tu sais, on les force à faire équipe. Puis t'as MJF qui est ok avec ça parce qu'il respecte Cole d'avoir presque battu, mais il veut passer du temps avec Cole. Puis là, Cole est comme devenu son meilleur ami. Roderick Strong comprend pas trop ce qu'il fait Cole avec MJF. Et là, il y a comme un côté de Cole qui trouve MJF cool. Puis il y a comme un côté de lui qui le trouve pas si cool,
non, mais
que ça.
Il protège. Il y a comme un côté de lui qui protège son dos. Mais moi, ce que j'aime, l'entrée des deux était flawless. Flawless. Le MJF s'est attaché à l'entrée de Cole, les petits mouvements, les Steiner Brothers, là. De Rick Steiner. Hey man, j'ai trouvé ça merveilleux. Puis quand ils vont faire le double clothesline, les gens vont pop. Tu sais, tout ce qu'ils ont fait était parfait.
Non, c'était vraiment excellent. Et puis ça mérite d'écouter dans la mic pour ça.
J'ai aimé le genre de graduation là de
Maxime
Dupree. J'aimais ça parce que il y a plus beaucoup de segments de ce genre. Tu sais, où tu laisses le talent faire de la comédie de cette façon-là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai comme, OK, ils ont laissé les gens risquer. Puis après ça, on va parler de Logan Paul, là, mais ils ont laissé les gens risquer, puis j'ai tout aimé.
Non, c'était quand même bien. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ben Punk et Joe. Je comprends qu'il n'y avait pas de build. Collision. Mais...
Pas juste à Collision, à Foot Dynamite, là.
Ouais. Mais
c'est
quand
le
même...
quatrième... d'une trilogie, là.
Ouais. C'est la première fois que Joe perdait contre CM Punk. Et là, le fait qu'il ait perdu, il a pété une coche après son match, il a attaqué CM Punk. Ça, j'ai aimé ça. J'ai été surpris. Et ça fait juste, en fait, OK, j'ai aimé le match. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes coups de cœur. Mais il y a une partie qui est dans les avertissements, parce que dans le fond, ce que j'ai pas aimé de ça, c'est que justement, Samoa Joe perd pour la première fois, puis il perd dans un match qui a même pas été buildé.
Ça a pas de sens.
Et ça j'ai de la misère avec ça.
Ça fait aucun sens qu'il ait pas fait un vidéo package, un genre de road to t'as toutes les clips de ROH, t'as ça les clips.
Toutes les clips de Ring of Honor.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets pas toutes les anciennes ROH qui parlent de ce match-là, mettre le match over. Fait,
expliquer pourquoi
c'est
un match important. Ben oui.
C'est pour la même raison que le son marche pas. C'est une gang de paresseux. Non, mais ça se peut pas. C'est impossible. La première fois qu'on a dit qu'on savait que CM Punk et Samoa Joe étaient les deux à Collision, on a dit « Shit, on a hâte de voir. »
Ouais.
Ils ont mis dans un bracket en demi-finale. Demi-finale.
Non, je sais.
Pas de build, pas rien.
Pas de build.
Fait que là, toi-même, t'as jamais écouté Samoa Joe contre CM Punk parce que tu pognais pas ROH, toi. Tu sais pas pourquoi c'est important. Fuck.
Non, ça a été... C'est désolant.
Désolant
de voir à quel point ils ont pas donné de build.
Ils s'en foutent.
Puis qu'est-ce qui arrive quand ils s'en foutent?
Ils s'en foutent. Moi, je m'en fous. M'en fous.
J'ai dit ça à la radio aujourd'hui.
Pourquoi?
Ouais, je t'ai cité, par contre.
Premier quote, man.
Hey, Rhea Ripley, qui s'établit comme la leader du Judgment Day.
Oui.
Pour vrai, là, j'ai adoré ce que Rhea Ripley a fait à Raw cette semaine.
Oui,
elle prend de plus en plus sa place. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. Puis vraiment, là, c'était excellent. Il n'y a pas un segment dans lequel elle a été qui était pas bon. Ouais. Sérieusement, là, ça m'a, à la limite, ça m'a impressionné de voir comment elle était. Ben, comment bonne elle était, ni plus ni moins. Est-ce que t'as d'autres? T'en as-tu d'autres?
Non.
Non, c'est tout. Avertissement. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives.
OK. Fait qu'on jase, là, OK? On jase, là. Non, mais mettons, on jase. On discute.
On discute.
On discute, là.
Mm-hmm.
Ricochet, c'est une bitch.
Pourquoi?
Il s'est fait bully comme une bitch.
Ah, oui.
Ok, j'ai crié dans le micro.
T'as crié. Excuse-moi. Vraiment, t'as réveillé les enfants qui croient pas... Qui
Aïe, arrête, man, arrête! C'est vraiment pas drôle! Fuck you, Pat! Si j'ai juste lancé mon gâteau! Fuck! Si, man, arrête, là! Dude! Je peux pas écouter le podcast avec des enfants proches? Yo, man! Ça se peut pas, man! Le patin est disrespect!
Oh, wow!
Genre, je parlais de quoi, là?
Je sais, mais Ricochet!
C'est une bitch!
Ça, c'est correct, par contre!
Oui! Parce que c'est vrai que c'est une bitch! Ricochet, là! Ok, so, il rentre dans le ring, fait sa promo, kiss le ass des fans, correct, je suis capable de vivre avec. Logan Paul arrive, le disrespect, là! Il dit même que les gens chantent mon nom pendant ta promo. Imagine comment le disrespect est à un autre niveau, là. Puis, il fait un move de flip contre Ricochet quand c'est ça qui Ricochet... Contre Logan Paul. Quand c'est exactement ce que Logan Paul reproche à Ricochet. C'est de faire des flips pour TikTok. Puis le partner, il a fait un flip.
Ah, mais il va pas changer.
Mais non, mais tu fais un bagarre de rue, quelque chose. Montre que t'es un grand moon. Fais quelque chose, Steve, man. Il a l'air d'être une bitch. Avec sa chemise!
Moi,
on a dit un bal des finissants 2004 avec sa chemise!
Ce qui m'a fait rire un peu là-dedans.
Samantha est plus au vœu que Ricochet!
Samantha qui est la conjointe de Ricochet. Ce qui m'a fait rire un peu là-dedans, c'est Ricochet, premièrement, il peut pas, comme tu dirais si bien, il peut pas cut une promo pour sauver sa vie. On l'a vu dans le ring. Et deuxièmement, il est pas menaçant.
Hey, man, il est pas menaçant pour deux scènes.
Non.
Le gars, il a fait un flip hors du ring. On l'a vu faire ce flip-là trois fois, là, depuis NXT, là, OK?
Ouais.
Fait, il y a eu aucune réaction de la foule. C'est impressionnant. C'est pas bon pour ses genoux. C'est impressionnant. Puis, j'écoutais.
Tu dis, c'est pas bon pour ses genoux.
C'est pas bon pour ses genoux,
non.
Là. Ce flip-là servait à rien, là. Genre, il y a personne qui avait fait, oh, les gens ont fait.
Non. C'est sûr. Seth Rollins, là.
Oui.
Parce qu'il était à Buffalo, il savait être des Buffalo Wings. C'était comme pas nécessaire, je trouvais.
Non.
C'était vraiment pas nécessaire de le voir. Il a craché un morceau de poulet à un moment donné.
C'était ça mon problème.
Mais moi. Oui, mais c'est sûr. Tu le fais parler en mangeant des wings.
L'affaire est tombée de sa bouche. Puis il y avait du poulet dans la bouche. Puis il faisait son esti de.
Mais oui,
J'ai failli lancer mon laptop.
Mais logiquement, là.
Ouais.
Logiquement, là. Lui, là, il mangeait des ailes backstage.
Ouais.
Il a entendu Dom.
Ouais.
Sa toune est partie. Il a mis sa ceinture autour de sa taille. Puis il a amené son assiette d'aile avec.
Peut-être qu'il mangeait avec sa ceinture.
Voyons! Puis à Montréal, il va rentrer avec une poutine. Puis au Texas, avec des fajitas.
Mais ça fait... Pourquoi les fajitas au Texas?
Ben, c'est là ça a été inventé.
Non.
Les fajitas ont été inventés au Texas.
Au Mexique.
Au Texas.
OK, parfait. Je me stinerai pas, j'ai pas envie.
J'ai fait de la recherche.
Tu sais, je me doute que...
Je cherchais des aliments qui avaient été inventés dans des états. Mais c'était comme, je comprends pas.
Mais mon autre point, c'est que Seth Rollins, là, il fait des affaires où il nomme des spots des villes. Puis tu sais, il avait nommé un bar à Cleveland, il est sorti dans le bar à Cleveland.
Je comprends, mais...
Fait que je suis pas contre l'idée.
Ah, mais je trouvais que ça paraissait pas bien, en tout cas. Ça paraissait vraiment, vraiment pas bien.
J'ai pas trouvé que c'est une bonne idée non plus.
Le finish de Chelsea avec les pieds d'un câble sur Katana Chance. L'arbitre est devant. Tu peux pas ne pas voir les pieds parce qu'ils sont en diagonale. Contrairement à d'habitude où l'arbitre se place vraiment devant. Là, il est en diagonale. Il nous montre une reprise de l'angle de l'arbitre. Nous, on les voit, ses pieds. Pourquoi l'arbitre l'a pas vu? Ça me fâche. Ça me fâche. Et mon dernier avertissement, moi, John Moxley, qui a dit qu'il a parlé de l'affaire du sang. On lui a posé la question. Puis lui, il dit que c'est normal qu'il y ait du sang à la lutte parce que c'est un sport de combat. Et que dans les sports de combat, il y a du sang. Il y a du sang à la boxe, il y a du sang au UFC. Et que pour lui, que c'est pas... ils vendent pas le produit comme étant un produit sanglant, mais ça aide au réalisme. Mais la seule différence, je trouve... Premièrement, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit à 100%, mais ce que je trouve, le point que j'aurais aimé lui faire à John Moxley, c'est dans un sport de combat, là, le but, c'est pas de faire saigner l'autre. Le but, c'est de battre l'autre. S'il saigne, il saigne. Mais en même temps, quand un combattant se saigne, au UFC ou à la boxe, c'est quoi qu'on essaie de faire?
On arrête le match.
On arrête le match, puis on arrête le sang.
Ouais.
Dans les hommes de coin, là, tout ce qu'ils font, c'est ça. Là. Essayer d'arrêter le sang. Non. À la lutte, c'est l'inverse. On travaille pour que les lutteurs et lutteuses saignent davantage. Elle est là, la différence. Je comprends son point du sport de combat, mais il voit pas l'autre côté de la médaille.
Je sais qu'on n'a pas parlé de New Japan, là.
On l'avait pas, il y avait quelque chose à parler.
Mais oui, il a annoncé. Tu sais, j'avais parlé il y a quelques années.
Il t'a parlé il y a quelques années, puis tu nous en reparles maintenant, t'es quasiment pas en retard.
Il y a quelques mois, j'avais dit on va peut-être avoir un Three Musketeers.
Tu sais, je sais pas. Oui.
Mais là, ils ont annoncé officiellement. Tu sais, c'est gros. Au Japon, c'est gros, ça, les Trois Mousquetaires.
Il n'y en a pas un des trois, là. Il y en a même deux des trois qui sont pas d'accord avec le fait de se faire appeler les Trois Mousquetaires.
Ah, ben,
les
tu vois, là, j'ai pas.
Ouais. Si tu me nommes les gars, je vais pouvoir te dire qui, parce que je l'ai lu,
ben,
ça.
Tu sais, juste pour vous donner une idée, les Trois Mousquetaires, c'est quoi, là? C'est trois personnes qui redéfinissent un peu la compagnie, là, OK? Fait que les Trois Mousquetaires, puis c'est trois personnes qui sont spécifiques dans le fighting spirit, là. Ouais. Les originaux, c'était Kaiji Muto, Masahiro Chono, et puis Shinja Hashimoto. Après ça, quand il y a eu le rebirth, là, de New Japan.
Ça va-tu?
Ouais, parce que j'essaie de retrouver les noms parce que je les ai pas écrits. Ouais. Quand il y a eu le rebirth de New Japan, les trois nouveaux mousquetaires, c'était Tipin Shabata,
ouais,
Tanahashi,
puis
Shinsuke Nakamura.
Shinsuke Nakamura, ouais.
Fait que tu sais, c'est trois gros noms, là. Vous savez tous c'est qui. Et là, ils ont nommé les trois nouveaux Shota Umino, Shooter, que j'en parle beaucoup sur le podcast.
Ouais.
Ren Narita, qui est exactement comme Tipin Shabata, là.
Ouais.
Et Yota Tsuji.
Bon, mais c'est pas Ren Narita, c'est les deux autres qui ont dit dans des entrevues qu'il y avait pas, il y avait pas demandé à faire partie ou avoir le tag des Trois Mousquetaires. Et puis qu'il était pas nécessaire, ils s'identifiaient pas nécessairement à ça. Puis bref, c'était assez négatif de leur côté, à être identifié à ça.
Parce que c'est deux heels, là. Fait que c'est-tu parce que c'est les heels qui ont...
Ah, là, écoute, là, je pourrais pas te dire.
C'est ça.
Là, j'avoue, c'est une information que j'ai pas. Mais, à tout le moins,
c'est un méga honneur d'être
eux ont dit.
C'est en 2004 que la deuxième génération a été nommée. Mais c'est un méga honneur d'être nommé dans les Trois Mousquetaires. Ton futur est presque assuré. Puis les trois sont dans le G1. Donc, les trois vont être à surveiller dans le G1. Le G1 commence samedi le 15. Donc, ma vie est terminée à partir de samedi le 15. Mais je vais vous faire des rapports à chaque fois, man, comme d'habitude. Man.
On va aller maintenant aux prédictions. Prédiction, Kev. Et juste avant d'aller aux prédictions, j'ai trouvé les chiffres pour Francis Ngannou.
Oh non.
Alors,
moi, là, je te connais tellement. Ton petit sourire de fendant, là. Va chier.
Alors,
est-ce que je le connais, man? Il fait de mal. J'ai trouvé les chiffres. Là, il fait la petite moue. Prend ses bras, puis là, il met son sang à l'avant de sa face. Alors, hey.
Hey, ça,
c'est beau, man, c'est beau.
Ça, c'est drôle, mais je vais quand même le dire pour le bon soin de ceux et celles, comme tu disais tantôt, qui veulent savoir. Moi, je fais ça pour nos auditeurs, Kev. Donc, les deux derniers pay-per-view que Francis Ngannou a fait, c'est en mars 2021, UFC 60, et en janvier 2022, UFC 270. Ça fait déjà un an et demi là, qu'il n'est plus au UFC. UFC 260 contre Stipe Miocic. Qui va affronter d'ailleurs John Jones au Madison Square Garden au mois de novembre pour le 30e anniversaire du UFC. UFC 260 a fait 300 000 de je pay-per-view sais, buys.
Comparé aux autres heavyweights que moi je dis.
Mais je comprends, mais comparé cette année-là, comparé aux autres pay-per-view du UFC.
Mais c'est
là,
pas ça que j'ai dit, moi.
Il est loin, là.
Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit. Comparé aux autres heavyweights.
Attends une minute.
C'est ça que je dis.
Et ensuite, UFC 270, ils ont aussi fait, c'était lui contre Cyril Gann, le français, et ils ont également fait 300 000 non. de cote d'écoute.
Là, tu spins d'achat.
300 000 de pay-per-view
buys.
C'est base,
contre excuse-moi. Les autres heavyweights. C'est ça que je
mais
dis depuis le début.
Mais quels autres heavyweights?
Ben, c'est ça. C'est Francis Ngannou, c'est l'heavyweight le plus connu, puis John, à part Daniel Cormier, puis
à part Daniel Cormier, à part John Jones,
non,
à part Brock Lesnar faisait un million de pay-per-view buys.
Mais il y a 10 ans, il faisait ça.
Mais il est à la WWE maintenant.
Il est plus autant relevant dans le monde de la UFC qu'il l'était ou dans le monde du sport de combat qu'il l'était.
Ben oui. Francis Ngannou, ça fait un an et demi qu'il se bat plus, Kev.
Francis Ngannou, c'est le heavyweight, à part John Jones, parce que John Jones a monté de catégorie pour aller chercher les belts de toutes les catégories.
À part Daniel Cormier.
Daniel Cormier a fait la même chose. Il a fait la même chose, Daniel Cormier. C'était pas un real heavyweight. Il a monté de catégorie pour aller chercher. Fait que si tu prends
c'est pas un real heavyweight.
Un real heavyweight, c'est un gars qui monte pas de catégorie ou qui baisse pas de catégorie. C'est un heavyweight. De toutes les heavyweights, Francis Ngannou, c'est le plus connu. Point.
Oui, écoute, c'est sûr qu'à partir du moment où tu veux mettre des barèmes et...
C'est pas des barèmes,
ben
c'est
oui.
exactement ce que j'ai dit.
Ben non.
J'ai dit parmi les heavyweights.
Mais parmi les heavyweights
heavyweight.
De tous les temps, de la dernière année,
des dernières années,
de ceux qui n'ont pas changé
de
catégorie.
Non. Des dernières années.
Tu sais, t'enlèves tous ceux qui font pas ton affaire.
Francis Ngannou, courant les dernières années, c'est l'heavyweight le
Francis Ngannou est pas connu.
Mais ben, t'es mal, il est pas connu
comme toi tu penses qu'il est
t'es
connu.
T'es mal, zéro. De dire qu'il est pas connu, c'est du suspect.
Il y a des light heavyweight plus connus que lui.
Oui, mais je parle pas des light heavyweight. J'ai dit heavyweight.
Je comprends.
J'ai pas dit light, j'ai pas dit mais, j'ai pas dit poids coq, j'ai pas dit fille, j'ai pas dit chien, j'ai pas dit chat, j'ai pas dit ours. J'ai dit heavyweight.
Mais moi je te dis que c'est pas le heavyweight qui va attirer le plus dans ce genre de match-là et Brock Lesnar aurait attiré plus. Il va faire un sondage sur Twitter et sur Threads et tu vas voir que les gens vont dire Brock Lesnar attire plus que Francis Ngannou.
C'est un crowd de lutte.
OK.
Mets la même question dans un crowd de UFC.
OK.
UFC qui gagne.
Je vais carrément poser la question aux gens de MMA que je connais. M'a posé la question à Ariel Helwani.
Parfait.
Je vais poser la question à Dave Meltzer.
Parfait.
Puis j'arrive avec la réponse la semaine prochaine.
Parfait.
Puis là, tu vas prendre leur réponse, là.
Oui, je vais prendre leur réponse, mais.
Moi, je sais qu'est-ce qu'ils vont me répondre.
Demande à Pollock aussi.
Je vais demander à Pollock. Je vais demander à trois. On va avoir deux contre un.
Ouais.
Ou trois contre zéro. Les trois vont être contre toi.
Je pense pas, moi.
Prédiction. Impact Slammiversary, ça, samedi 15 juillet. Là, les gens vont nous dire qu'on vient de faire un déconfinement mania, là.
Mais non, n'importe quoi. Dès qu'on s'ostine, les gens, ils sortent déconfinement mania.
Ben oui.
Je suis comme, let us breathe, là. On peut s'ostiner en paix, là.
C'est quand même les antipodes de la lutte. Ou des fois, les antipodes des sports de combat. Alex Shelley, Nick Aldis. On en a parlé tantôt avec JF. Moi, je garde mon choix de Nick Aldis. De ton côté.
Je souhaite mon booking de gimmick, là.
OK. OK. Mais ça veut dire qui gagne Chalet. En bout de ligne, c'est Chalet. OK. Deonna Purrazzo contre Trinity.
Ah, oh, Trinity.
Trinity. Chris Sabin défend son titre X-Division contre Lio Rush.
Sabin, parce que Lio Rush devrait retourner au Japon, là.
Ou à la retraite. On ne sait jamais avec Lio Rush.
Chier.
Les champions par équipe.
Damn, man. Why you gotta be that guy, man?
Hey, j'ai pas dit, genre, que Pernel n'existait pas, là.
Ah! Arrête!
Les champions par équipe d'Impact, ABC, Chris B.
C'est comme à la torture, juste comme stop, just stop.
Chris B et Ace Austin qui vont défendre leur titre contre Sami Callihan et Rich Swann. Et Rich Swann qui a déjà été champion d'Impact. Brian Myers et Moose et Subculture dans un quadruple menace.
Ils ont appris de leur erreur. Non, regarde ça sur Bullet Club, ils font
ouais,
bien.
Moi aussi, je pense que
Bullet Club est très bien à Impact en ce moment.
Ensuite, les championnes par équipe Knockouts de Coven qui vont affronter Masha Slamovich et Killer Kelly. J'espère que c'est Slamovich et Kelly.
Ben oui, là, c'est le temps de le donner à Slamovich.
Bully Ray Deaner contre Scott D'Amore et PCO ou Josh Alexander ou je sais pas qui, avec comme arbitre, Special Enforcer plutôt, Darren McCarthy.
Ben là, ça va être les Babyface qui vont gagner, là.
Donc, Scott D'Amore et D'Amour, peu importe son partenaire. Ultimate X, on va avoir le Québécois Mike Bailey contre Jonathan Gresham, contre Angels, contre Kevin Knight, contre Kushida. Moi, je pense que Bailey est dû pour une victoire, là. Gresham, je le vois pas gagner. Kushida pourrait le gagner, remarque.
Moi, je pense qu'ils vont peut-être donner à
Kushida.
Vu qu'il était dans le match pour le gros titre.
C'est le genre de match que personne se fait piner. Donc...
Exact. Tu peux te donner à Kushida. Moi, Bailey, moi, je le garderais pour quelque chose de gros. Pour moi, c'est pas gros, ça.
Okay.
Moi, je le garderais pour un contre un, pour le titre, sur un gros stage, même que tu peux le mettre dans un main event, puis il va bien performer.
Frankie Kazarian contre Eddie Edwards. Oui.
Frankie Kazarian.
Oh, je vais y aller, Frankie Kazarian.
C'est match Résidence Soleil, man.
Wow, que tu leur manques de respect.
Pis toi, man, manque de respect aux gens.
Joe Hendry qui défend son Digital Media titre contre Kenny King.
Garde ça sur Joe.
Et finalement, dans le countdown, les deux matchs, en fait, Joe Hendry également, sont dans le pre-show countdown. The Dead Dolls, Courtney Rush et Jessica contre et Joe Detroit contre Giselle Shaw, Savannah Evans et Jai Vidal. Je vais y aller avec les Dead Dolls et Joe Detroit. Le quiz.
Le podcast est long.
L'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques de Double J. Quelle est votre équipe préférée composée d'un heel et d'un face entre The Rock, The Rock et Suck Connection, c'est ça? En fait, excuse-moi. Quelle est votre équipe préférée composée d'un heel et d'un face entre The Rock and Suck Connection ou Team Hell No?
The Rock and Suck Collection de loin.
Ouais.
Puis tu sais, même la promo de MJF.
Mais Team Hell No, c'était bien.
Oui, mais c'était même pas proche de Rock.
Exact.
Mais la promo de MJF après pour la fête de Cole me donnait des vibes de Rock and Suck Connection. C'était nice.
Ouais, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu. Je sais pas, l'affaire du gâteau. Ça manquait de fluidité.
De mettre la face dans le gâteau, j'étais comme, ah là, c'est la petite affaire de trop.
Ouais.
AEW font toujours la petite affaire de trop. Ouais. La promo qui dure 2 minutes de trop. Toute de trop. Il n'y a pas d'argent.
Qui est le meilleur technicien sur le ring entre Daniel Bryan et Bret Hart? Ça, c'est difficile à dire.
Pas pour toi, là, tu vas dire Daniel Bryan.
Je suis capable de respecter.
Bryan Danielson n'a pas jeté ton livre dans la poubelle.
Je comprends, mais je suis capable de reconnaître les exploits athlétiques puis le talent de Bret Hart. Mais je vais quand même dire Daniel Bryan.
Non, c'est Bryan Danielson. Parce que
moi, je sais pas pourquoi il dit Daniel Bryan. Double J, c'est Bryan Danielson son nom.
C'est les deux, il était les deux. Tu sais, dans le sens que Danielson a bénéficié de ce que Bret Hart a fait, puis il l'a upgradé pour la mieux.
Je vais t'envoyer une balle courbe. Zack Sabre Jr. ou Bret Hart?
Zack Sabre Jr.
Donc, Bret tombe troisième?
Trois. Puis facile.
OK.
Puis
Kurt Angle ou Bret Hart?
Bret Hart. Okay. Mais il y a une discussion à avoir entre Zack Sabre Jr. puis Bret Hart.
Et Bret Hart, je suis d'accord.
Puis il y a une discussion à avoir entre Bret Hart puis Dean Malenko.
Quelle dispute backstage réelle est la plus célèbre entre Chris Jericho et Brock Lesnar ou Booker T et Batista? Je suis même pas au courant de Booker T et Batista.
Peut-être un piège qu'il nous donne, là.
Alors, on va dire Jericho et Brock Lesnar.
Peut-être un piège qu'il nous donne,
c'est
là.
C'est un piège. Hey, Jérôme qui nous envoie des pièges.
C'est peut-être un piège.
Hey.
Oh,
hey.
OK, ciao.
We see you. Hey, c'est déjà tout pour nous. Tu t'en vas à Rimouski, toi, mon Kev?
Ouais, ça joue au golf.
Tu t'en vas à Rimouski, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Bye. Salut, Kev! Bye, mon Kev! Kev est déjà... Kevin Raphaël has left the building. En mon nom, celui d'Anne-Sophie Carpentier et quand même celui de Kevin Raphaël. On vous remercie d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous! Mais Anso, habituellement, je parle à Kev pour finir le show comme ça. Là, m'a te parler à toi. Coudon, hein? Il faut ce qu'il faut. Il enlève son casque pendant que je fais la fin. Mais là, il était juste pressé.